Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Jean-Yves a fait le choix de s'installer dans la province du Yunnan, dans la ville de Dali. Jean-Yves décide de quitter l'Europe pour vivre une nouvelle réalité. Aujourd'hui, Jean-Yves vit avec sa femme, d'origine chinoise, et sa fille. Passionné de montagne, Jean-Yves a développé une agence de trek et guide des groupes dans les montagnes avoisinantes. Regarde ailleurs vous emmène à la rencontre de Jean-Yves qui nous présente son parcours de vie et son insertion dans la société chinoise où il a choisi de s'installer. Jean-Yves, qu'est-ce qui t'a amené à faire le choix de vivre ici, en Chine ?
C'est une longue histoire. Alors les Chinois diront qu'il n'y a pas de hasard. C'est ce qu'on appelle le Yuanfen, c'est une forme de providence. Alors j'ai 33 ans. Je suis en Chine depuis bientôt 10 ans maintenant. J'ai rencontré ma femme qui est chinoise. Et on a une petite fille ensemble. J'ai eu un parcours assez classique au début. J'ai grandi en région centre, en Sologne. Et ensuite, j'ai déménagé à Paris. J'ai fait mon lycée à Paris. Et à ce moment-là, se posait la question d'une orientation et j'ai fait, sans trop savoir pourquoi, une école de commerce qui m'a amené à quitter la France, à étudier en Angleterre et à y travailler, puis aller en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, à Berlin et à Hambourg, où j'ai aussi travaillé là-bas. Et puis de fil en aiguille, en fait, je me suis intéressé à l'Asie, au Japon. Je lisais des mangas, je regardais beaucoup de films japonais et de plus en plus à la Chine. Et j'avais rencontré pas mal d'amis chinois, notamment à Oxford. Pris quelques cours d'initiation aux Chinois ici, des cours d'arts martiaux japonais là. Et puis de fil en aiguille, une décision de partir après avoir travaillé en Allemagne, de venir en Asie, un cousin à Hong Kong, un ami à Shanghai, qui m'ont amené à vouloir prendre le large. Le sentiment que l'Europe est très intéressante, beaucoup de beaux pays, mais j'y trouvais plus vraiment ma place. J'avais envie de prendre de l'air, de changer d'environnement, de me remettre en cause peut-être. Et finalement, dans la perspective d'aller au Japon, une petite escale en Chine qui n'a jamais cessé. Voilà, bientôt 10 ans de Chine. Avec finalement une petite pointe d'ironie puisque je vais au Japon dans 3 jours.
Excellent, pour la première fois.
Pour la première fois.
Oh bah c'est bien, le voyage continue. Mais quand t'es arrivé ici, alors en Chine, c'était dans l'optique de quoi ? Donc tu sortais d'une école de commerce. C'était vraiment te créer une situation professionnelle ou plutôt c'était en mode voyageur pour découvrir une autre culture, un autre pays ?
Les deux en fait. Dans un premier temps, école de commerce, grandes entreprises, bureaux de conseil, banques... marketing, grande distribution, beaucoup de choses pas toujours passionnantes, en tout cas qui m'ont frustré à plusieurs reprises dans une recherche peut-être plus humaine, de rapports plus à ma taille, des choses de petite taille, petite structure. Et avec ce diplôme en poche, quelques amis à Shanghai, des entreprises françaises qui se développent, qui recherchaient des Français en VIE ou en stage, quelque part, sans avoir l'assurance, mais en tout cas l'idée que, si besoin, la possibilité de trouver un métier là-bas, un poste, une fonction, une mission, quelque chose, mais avec beaucoup l'idée de voilà, changer d'air. J'ai quitté ma mère, elle avait les larmes aux yeux en disant « j'émigre ». J'étais pas parti en vacances. J'avais un aller-retour pour le coup, c'était un billet de 5 à 6 mois, parce que ça coûtait moins cher qu'un aller simple. J'étais pas sûr de me servir du billet de retour. Et donc je suis parti plus à l'aventure, et on parlait beaucoup de la Chine, de l'Eldorado. J'avais pris des cours de spécialisation Asie, Chine, Japon, Corée, et avec le sentiment que j'avais un ailleurs à explorer, et je n'en suis pas encore revenu.
Mais donc déjà il y a 10 ans on parlait déjà de l'essor de la Chine, du potentiel économique de ce pays, et toi tu avais compris ça, quoi.
En école de commerce, on avait tendance à pas mal nous bourrer le mou sur l'importance de la Chine, du nouveau partenaire commercial, etc., d'un pays qui changeait très vite. Curieux de nature, j'avais aussi des amis qui étaient partis en voyage. Je lisais de plus en plus de choses sur le sujet. Et puis le confort d'avoir un cousin à Hong Kong qui pouvait m'accueillir aussi. Donc oui, il y avait le sentiment que ça bougeait là-bas et qu'il fallait y aller pas trop tard avant que ce soit... On parlait déjà d'une Chine qui changeait beaucoup, qui changeait très vite, peut-être trop vite. Et moi qui avais commencé à pratiquer un certain nombre d'arts martiaux, dont des arts martiaux chinois aussi, fait du Tai Chi Chuan et du Qigong, c'était posé le moment, la question de voir la Chine avant qu'elle ne disparaisse, au moins une Chine plus traditionnelle, une Chine peut-être des campagnes. Et après un an en ville, après Hong Kong et Shanghai, quelques voyages à Pékin, Chengdu et d'autres grandes villes de Chine, des villes de l'intérieur, un séjour dans le Yunnan qui a été un coup de foudre. Je suis arrivé à Kunming, très vite à Dali, et j'ai vu les montagnes, le lac. Je faisais beaucoup de randonnées plus jeune avec mon père. Dès que j'avais des vacances avec lui, on partait dans les Alpes, dans les Pyrénées, en Europe, pour de faire de la randonnée. Et j'en avais pas fait toutes ces dernières années d'école de commerce, de stage, d'un rythme intense qui m'avait écarté finalement de la nature. J'ai grandi en Sologne, dans la forêt, à faire des cabanes dans les bois. Et cette reconnexion, en quelque sorte, ce rapport à la nature qui revenait, ces montagnes à Dali, on a des montagnes qui montent jusqu'à plus de 4000 mètres ici à Dali, et si on va un petit peu plus au nord, du côté de Shangri-La, donc la partie tibétaine du Yunnan, on a des montagnes qui culminent à 6700 mètres, on passe la frontière tibétaine ou sichuanaise et on a des montagnes à plus de 7000, on est sur les marges de l'Himalaya ici, et d'avoir accès à ça, d'y être, d'ouvrir les yeux et... d'ouvrir ma fenêtre le matin, de regarder la montagne et me dire ok, je déjeune là-haut, et de l'avoir fait un certain nombre de fois où partant à 8h, j'étais à 4000 pour le déjeuner quelques heures plus tard. Moi, c'était une occasion à saisir, et des amis sont venus, m'ont vu vivre ici et ont vu combien je pouvais m'y sentir heureux, et la chance folle aussi que cette femme que j'avais rencontrée quelques mois avant à Shanghai et jouer le jeu et décider de quitter son métier, de quitter Shanghai, quitter la vie urbaine confortable qu'elle avait pour me rejoindre dans le Yunnan et nous installer ici.
Donc avant d'arriver au Yunnan à Dali, où tu as créé ton entreprise, hein, on en parlera après, une société de trek, tu faisais quoi dans les grandes villes à Hong Kong et à Shanghai?
Il y a eu une période de transition, une période où je me cherchais, je me suis mis freelance à mon compte ou avec des amis dans différents domaines, en photographie dans un premier temps, j'étais assistant photographe. C'est posé la question, en fait, le moment venu de m'installer définitivement à Shanghai pour faire photographe ou de suivre cette intuition que j'avais d'aller dans les montagnes, et j'ai donc finalement choisi les montagnes. Mais pour le coup, j'avais aussi essayé d'autres activités. J'ai joué à celui qui répare les ordinateurs des expatriés qui s'en sortent pas, comme je venais d'un environnement familial où il y avait beaucoup d'ordinateurs à la maison. J'ai réparé un Windows ou deux et autres. Et donc, j'ai aussi pris le temps, donc j'avais postulé pour un certain nombre de stages ou de VIE et autres, pour prendre la mesure du marché du travail en Chine, prendre des cours de chinois aussi, parce que Shanghai, Hong Kong sont des villes où on peut faire 100, mais on peut faire ça en anglais, mais on rate quand même l'essentiel, à ne rester qu'en anglais, que dans sa langue. Et puis des voyages, prendre le temps depuis Shanghai avec à l'époque 1 euro plus fort qu'aujourd'hui qui permettait de voyager pas trop cher, et donc de prendre des billets d'avion ou des trains. J'ai des souvenirs d'avoir fait des Shanghai Chengdu, Chengdu Pékin en train, des nuits de train, d'avoir parcouru un bout de Chine. La Chine est grande, hein, 1/5 de l'humanité, 17 fois la France, c'est un pays sans limite. Et on a souvent le cliché des grandes villes, des images d'Épinal, des grandes villes, ou des images de Tintin, d'une Chine rurale qui disparaît. Mais la Chine est un pays qui est vraiment à proprement parler pluriethnique, plurilinguistique. On passe de 0 mètres d'altitude à l'Everest. On a des très grands déserts, énormément de choses à voir. Et quand on commence à goûter, on n'en revient pas.
Thank you.
Quand on est en France, j'ai l'impression que la Chine est un pays, bien sûr tout le monde connaît, mais très, très peu connu finalement, avec beaucoup d'a priori, beaucoup d'images libénales qu'on peut avoir sur ce pays. Donc quelles étaient toi les images, le stéréotype que tu avais sur ce pays et puis quelle est la réalité que tu as découvert ici ? Parle-moi un petit peu de ce que tu entends, les on-dit sur la Chine et ce que toi tu as vraiment vécu ici.
Ouais, c'est toujours très paradoxal parce qu'en fait une partie de ces on-dit qu'on a en France, ceux d'il y a 10 ans quand je suis parti, ou d'il y a 15 ans quand je m'étais posé la question de l'Asie, et ceux qu'on dit aujourd'hui sont pour part vérifiés. On est dans un système politique très particulier, les Chinois ont un degré de liberté assez variable, variable selon leur situation professionnelle, personnelle, variable selon leur lieu d'habitation. On n'a pas tout à fait le même degré de liberté à Pékin, à Shanghai ou dans les montagnes. Mais en même temps, on se concentre, j'ai envie de dire, beaucoup sur le négatif, sur ce qui est dommage, sur ce qui est regrettable, ce qu'il faudrait voir changer. Mais il y a énormément de choses qui méritent. Alors évidemment, on connaît la grande culture chinoise, la culture classique. Beaucoup des musées en Europe, et notamment en France, ont de très belles collections d'art chinois. Mais il y a aussi tout un quotidien, toute une Chine des rues, une Chine des villes aussi, qui est magique, qui est nature. Et c'est une Chine auquel on a peu accès en Europe, parce qu'il faut venir ici la vivre. Et que... Alors les mots, les images aident à apprécier, à prendre conscience, mais rien ne remplace l'expérience sur le terrain. Et puis il y a un moment où quand on est sur place, ça vous surprend, ça peut être violent même, en positif comme en négatif. J'ai des amis qui n'ont pas tenu, qui ont craqué, qui 6 mois ou 1 an de Chine n'en pouvaient plus. Souvent ceux-là sont ceux qui n'ont pas fait le jeu de la langue et le jeu de la culture et l'apprentissage. J'ai eu des amis qui m'avaient donné le conseil et j'ai eu la sagesse de suivre leur conseil justement. Après mon école de commerce, j'ai décidé de rentrer aux langues orientales à Paris. Je suis rentré pour une première année de DUG, de ce qu'on appelle maintenant une licence, enfin les formats ont changé, mais une première année de licence à Paris pour apprendre le chinois et prendre des cours de culture et de civilisation chinoise. Et j'avais déjà en tête de partir à Hong Kong avec donc un cousin qui y habitait. Et je me suis dit, écoute, le chinois, la langue chinoise, le mandarin, putonghua, tu l'apprendras sur place. Alors prends des cours de grammaire, prends des cours de base, prends des cours de compréhension pour avoir le minimum, le béaba qui te permettra de t'en sortir sur place. Mais j'ai eu l'intuition en effet que les cours de culture et de civilisation que cette école, les langues orientales à Paris, pouvait proposer, étaient de bien plus grande valeur. Et alors j'ai pris tout ce que j'ai pu. J'avais 4 cours d'histoire différentes, histoire moderne, histoire contemporaine, histoire des civilisations ou d'anthropologie ancienne, géopolitique, géographie évidemment, des cours de littérature, des cours de tout ce que j'ai pu prendre, je l'ai absorbé autant que possible, considérant que j'aurais peut-être pas tout à fait accès à ça sur place en Chine. Et ma plus grande surprise, une forme de tristesse au début, mais qui peut se comprendre et qui change aujourd'hui, c'était de réaliser que bonne part de mes amis chinois sur place n'avaient même pas eu accès au contenu de ce que moi j'ai eu en 6 mois à Paris, parce que la Chine et le système éducatif chinois ne se concentraient pas là-dessus. Et un jour, en fin novembre, début décembre 2006, à l'occasion d'un ami français qui fêtait son anniversaire dans un restaurant à Shanghai, j'ai rencontré une femme avec qui j'ai commencé à discuter. On a commencé à parler poésie, littérature chinoise. Là, je me suis arrêté, je lui ai dit « Mais c'est la première personne en Chine que je connais qui connaît vraiment la culture classique sur le bout des doigts. » Et à un moment, elle me regarde et elle me fait « Mais... tu connais la culture chinoise un peu plus que la plupart des Français que je rencontre. » Et Dieu sait que je suis à Shanghai depuis 15 ans. Ça court pas les rues. Et puis, 4 ans plus tard, on était mariés et c'est la mère de ma fille.
Tu parles de la Chine, de l'art chinois. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de la Chine comme un pays? Parce que c'est quand même, tu le disais, 17 fois plus grand que la France, avec beaucoup d'ethnies différentes. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une unité au sein de ce pays ou est-ce qu'il y a encore vraiment des clivages, des différences d'une région à une autre?
C'est très juste. La Chine est un pays continent. Un pays gigantesque avec une multitude de groupes ethniques, de ce que les Chinois du gouvernement vont appeler des nationalités différentes. Il y a une citoyenneté chinoise, mais il y a officiellement 56 nationalités différentes, ce que certains anthropologues n'hésiteront pas à chiffrer jusqu'à 300 ou 400 nationalités différentes, en tout cas des ethnies ou des ethnicités différentes. Autant de groupes ethniques qui ont des rapports au monde très intéressants et différents les uns des autres. On peut en effet pas comprendre ou cerner la Chine si on reste sur l'idée d'un tout centré et homogène. Pour autant, sur les, mettons, 4000 ans d'histoire chinoise, la Chine a connu des phénomènes de centralisation et au contraire des phénomènes de déconcentration, en quelque sorte de régionalisation. Et donc selon les périodes, selon la puissance des empereurs, selon la puissance de leurs vassaux, la Chine a connu des époques d'intégration et d'homogénéisation, comme à l'inverse des périodes d'éclatement, de morcellement, avec énormément de périodes historiques. Je pense au royaume combattant, je pense à la période des printemps et automnes, qui sont des périodes où là, en revanche, les princes, les royautés locales, les roitelets ont repris leur indépendance. Et ça s'est retrouvé sur énormément de groupes ethniques. On parle souvent des Tibétains en Europe, et à juste titre, il faut parler des Tibétains. Mais sur ce registre-là, il y a des périodes où le Tibet était beaucoup plus intégré au giron chinois, et à l'inverse, des périodes où les Tibétains en ont été beaucoup plus indépendants. Les choses ne sont pas figées, ne le seront peut-être pas toujours, mais en tout cas, il y a un pluralisme, une diversité en Chine qu'il est essentiel d'avoir en tête. Après, évidemment, ne serait-ce qu'à commencer par des grandes distinctions, la Chine du Sud, la Chine du Nord, la Chine de l'Est et de l'Ouest, de l'intérieur, la Chine des côtes, la Chine des montagnes, la Chine périphérique. Si vous prenez les provinces du Yunnan, du Guizhou, du Tibet bien sûr, du Xinjiang qu'on appelle aussi parfois Turkestan, du Qinghai, du Ningxia et de la Mongolie intérieure, vous êtes sur une Chine extrêmement peu peuplée et qui fait plus de la moitié du territoire chinois. Donc vous n'avez évidemment pas les mêmes personnes et le même rapport au monde, le rapport à la nature, des rapports familiaux, des rapports, des structures sociales ou sociétales qui n'ont rien à voir les unes aux autres. Donc rester sur l'image d'un Chinois, Han, avec un seul enfant, qui habite en grande ville, ça ne décrit qu'une partie de la Chine.
Donc
toi, tu as décidé aujourd'hui de travailler avec t'ouvrir sur le monde en proposant des treks. J'aimerais que tu me parles un petit peu de cette aventure. Comment est-ce que t'es venu cette idée? Et comment est-ce qu'on en vient à construire son business en Chine? Parce que j'imagine qu'en tant qu'étranger, c'est pas donné.
Alors de fait, là encore, pas de hasard. Un jour de randonnée dans les montagnes dans le Yunnan avec d'autres étrangers qui m'avaient rejoint, je passe par une auberge dans les montagnes, et je rencontre un Français qui y habitait quelques semaines et qui me présente son amie chinoise qui gère une auberge et qui pour le coup avait besoin d'un peu d'aide pour son site internet. J'étais à Shanghai, je faisais des sites internet et de la réparation d'ordinateurs et autres pour faire un peu d'argent de poche, et je lui propose de lui filer un coup de main, de l'aider un peu. Et de fait, j'ai refait son site, je l'ai aidé à avoir un peu plus de clients et je suis revenu faire de la montagne et de la randonnée chez elle. Elle m'a remercié en me guidant sur quelques montagnes ici et là.
Ici à Dali.
Ici à Dali, ici précisément. Et progressivement, je suis revenu avec d'autres amis, parfois seul, pour faire un peu plus de montagne, un peu plus de marche chez elle. J'ai continué de l'aider sur son auberge. Et est venu le moment, en fait, on a réalisé que son activité de guide, qu'elle avait déjà depuis 5 ou 6 ans à l'époque, et qu'elle faisait à titre individuel, personnel, mais qui était encore très rattachée à son auberge, méritait en fait peut-être d'être plus professionnalisée. Et donc en attendant de prendre une décision à Shanghai ou de voir de prendre la température avec d'autres stages, d'autres candidatures et d'autres projets à Shanghai, j'ai décidé de revenir un peu plus souvent dans l'Yunnan et de l'aider plus en profondeur, jusqu'au moment où on a décidé de choisir un nom et de professionnaliser l'activité pour en faire une agence. Le hasard ou la bonne fortune ou la providence veut qu'elle ait rencontré un Européen, un Suisse, avec qui elle s'est mariée, et elle a fait le voyage dans le sens inverse. Elle s'est installée en Chine, en Europe. Elle s'est installée en Europe, en Suisse, pas très loin du lac de Constance, à la frontière avec l'Allemagne. À l'époque, dans les montagnes, ma petite réputation de randonneur fou à courir les sommets faisait qu'il y a quelques étrangers de passage qui avaient entendu parler de moi, dont un Français qui s'appelle Mathieu, et qui un jour, après m'avoir cherché pendant 2 semaines par hasard sur une virée où je rentre au bercail, tombe sur moi à 5 mètres du pied de ma porte et me dit: tu serais pas Jean-Yves? Stupeur, si, pourquoi? Voilà, je te cherche depuis longtemps et je voudrais partir faire la randonnée avec toi. Et puis pour le coup, on a cheminé un peu ensemble et on a décidé de travailler ensemble pendant 1 mois, puis 3 mois, puis 6 mois, puis 1 an, puis après on a arrêté de compter. Il a travaillé avec moi pendant 6 ans, il a co-géré l'entreprise avec moi pendant 6 ans. De fait, là, lui est rentré en Europe, il revient de temps en temps, et d'autres Français, d'autres étrangers aussi m'ont rejoint. Donc bon an, mal an, on est de 2 à 5 selon les saisons. Donc l'origine est fortuite, mais là encore, pas de hasard. J'avais la montagne dans le sang de par mon père, mon grand-père, guide de haute montagne. Et j'ai eu l'occasion ici de revivre une connexion à la nature que j'avais quand j'étais enfant. Et avec, par ailleurs, un élément qui est pour moi fondamental, à la fois le désir et à la fois l'idée d'une nécessité de se faire passeur ou traducteur. Mais j'aime l'idée du passage et du passeur, comme on a un passeur sur le fleuve avec sa barque, ou à vivre dans un entre-deux mondes, entre l'Est et l'Ouest, l'Europe et l'Asie, la France et la Chine, mais plus encore dans ce monde dans le Yunnan, qui est un monde lui-même à la croisée des chemins. On a une influence chinoise Han considérable ici, mais on est à quelques heures du Tibet, quelques heures ou quelques jours à pied, mais on est aussi sur la partie nord, le prolongement de la péninsule indochinoise, et d'une Asie du Sud-Est qui elle aussi bouillonne et rayonne. Et à Delhi en particulier, on retrouve ces 3 influences. Et dans ce contexte d'entre deux mondes ou d'entre plusieurs mondes, le sentiment que, pour avoir eu du mal, moi, malgré mes quelques mots de chinois et un réel intérêt pour la Chine et ses pays aux alentours, un besoin d'en savoir plus et de le transmettre, de donner des clés. Des clés de lecture, des clés de compréhension de ce qu'est la Chine aujourd'hui, de ce qu'est le Yunnan aujourd'hui, de ce qu'est le Tibet aujourd'hui, ou de ce qu'il a été aussi par le passé. L'histoire ici est fondamentale. À ce titre-là, j'avais du mal à trouver sur place des livres, des gens, des interlocuteurs qui pouvaient m'aider à mieux saisir et à mieux transmettre cette réalité. Cette sagesse, ce rapport au monde, cette nature, Et quand j'ai commencé à guider avec un certain nombre d'amis, dont des amis guides ou accompagnateurs de moyenne montagne, et avec évidemment cette femme chinoise des débuts que j'avais rejoint dans son auberge, une nécessité croissante de transmettre et d'aider les gens à saisir les nuances, saisir, dépasser l'image d'Épinal, dépasser les clichés qui sont extrêmement réducteurs, qui plus est vu de loin, vu d'Europe, dans un contexte où on a parfois un peu peur, probablement à tort, de la Chine. Et je me suis découvert en quelque sorte, le mot est grand, mais une forme de vocation à me faire le humblement un passeur parmi d'autres. Je suis loin d'être le seul. Et j'ai eu le sentiment aussi, le paradoxe finalement, c'est que les Chinois ont un rapport à la nature qui est très particulier. C'est souvent un rapport de domestication, de maîtrise, de contrôle. Les jardins chinois, comme un peu les jardins japonais, mais les jardins chinois sont des jardins qui sont extrêmement travaillés, presque torturés parfois. Et je me suis retrouvé dans plusieurs cas de figure à guider des Chinois dans leur propre montagne chinoise et à me faire le traducteur ou l'interprète de ce qu'ils voyaient sans le voir. Et entendait sans l'écouter. Et là, ça a été un déclic, ça a été une forme de révélation à me dire que dans leur propre pays, comme probablement y a-t-il en France des gens qui n'ont pas saisi la beauté ou la richesse que la France a à offrir. Mais en Chine, voilà, cette situation paradoxale d'être un étranger, un Laowai ou un Weiguozhen, un Weiguopengyo, prenait toute sa place à être parmi eux et à apporter un nouveau regard. Oui, un nouveau regard. Tous les regards sont vrais, mais un nouveau regard.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.